éviter un vide institutionnel et préserver la continuité de l'État, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. C'est ce qu'indique la Cour constitutionnelle dans son arrêt rendu mercredi dernier. Troisième séance d'audition de Moïse Katumbi devant le parquet général de Lubumbashi. Tels sont les thèmes de ce soir dans le Tribune de la Presse. Nous avons autour de cette table Joachim Diana Gikoupa, il est leader responsable de la Colombe, un quotidien qui paraît à Kinshasa. Bonsoir Joachim Diana Gikoupa.
Bonsoir Guy Maté.
Peter Tiani, il est directeur général du Vrai Journal, partenaire à CCTV et certains autres médias chinois. Bonsoir Peter Tiani.
Bonsoir Guy Maté.
Et Gaston Moussid, directeur général de la radio-télévision Manika émettant de Kolwezi dans la province de Lualaba. Bonsoir Gaston Moussid.
Bonsoir Guy Maté.
Bienvenue à tous dans cette émission. Avant d'aborder les débats de ce soir, Alain Irung revient sur les sujets qui ont défrayé la chronique cette semaine. On l'écoute dans cette revue de presse qu'il nous propose.
Bonsoir. L'arrêt de la Cour constitutionnelle établissant la légalité du maintien en fonction du président de la République tant que les élections ne seront pas organisées est le premier sujet de cette revue de presse. Le potentiel retranscrit le texte lu par le président de la Cour mercredi 11 mai dernier pour consacrer le principe de la continuité de l'État affirmé à l'article 69 de la Constitution. L'article 70 alinéa 2 de la Constitution permet au président de la République actuellement en exercice de rester en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Ainsi titre le journal, avec ou sans élection présidentielle, la Cour constitutionnelle tranche Kabila continue. Pour le phare, le président de la République étant autorisé à expédier les affaires courantes pour une durée indéterminée jusqu'à l'investiture de son successeur, le glissement a trouvé une couverture légale. Ce quotidien estime qu'avec cette décision, le dialogue est plus que jamais sans objet. La deuxième audition de Moïse Katumbi au parquet de Lubumbashi fait aussi la une de la presse chinoise. Selon Forum des As, Katumbi a choisi de tout nier en bloc. L'Avenir et l'Observateur publient un même article sans signature qui dit, à force de nier même les évidences, Katumbi s'enfonce davantage. L'affaire Katumbi prend une ampleur qui dépasse les frontières nationales, écrit le Palmarès, qui en donne pour preuve David Gressley, le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies, a débarqué à Lubumbashi 2 heures avant l'audition en compagnie du directeur du Bureau conjoint des droits de l'homme. La tempête des tropiques informe que vendredi 13 mai, Katumbi sera confronté aux autres détenus, dont certains sont à Kinshasa. Le potentiel fait savoir que la défense de Katumbi est ferme sur cette question. C'est à Lubumbashi, juridiction de l'inculpé, que doit avoir lieu la confrontation et non ailleurs. Ce journal observe qu'une pression internationale s'organise contre Kinshasa, qui devra donner les preuves des accusations, faute de quoi l'étau se resserrera contre le pouvoir. Les tueries de Beni restent également d'actualité. Le phare se pose la question de savoir qui est derrière les tueries de Beni. Ce journal observe que les tueurs ne frappent que lorsqu'ils sont sûrs que l'armée régulière ou les forces onusiennes sont absentes. Et à la moindre alerte, à une action de traque, ils disparaissent dans la nature. Parmi les autres sujets d'actualité, le dialogue politique inclusif occupe une place de choix. La tempête des tropiques espère que de retour à Kinshasa, Edem Kodjo est engagé dans les derniers réglages. Terminons par la vente de Tenke Fungurume Mining aux Chinois. Pour 2,65 milliards de dollars américains, China Molybdenum rachète Tenke Fungurume, titre la référence plus.
Merci Alain Irung, Joachim Diana. Je rappelle que vous êtes éditeur responsable de la Colombe, un quotidien qui paraît à Kinshasa. Et l'actualité, c'est aussi le lancement du test pilote de kits d'enrôlement et des sources d'énergie par la CENI. C'était lundi dernier à Lupen.
Oui, c'est la preuve que les élections auront bel et bien lieu, même si selon le chronogramme de la CENI, ça sera impossible de tenir la présidentielle dans le délai constitutionnel. Et c'est ça l'objet du dialogue. J'ai entendu un des confrères dire que le dialogue est sans objet. C'est comme si le dialogue avait comme objectif voir le président va rester en fonction ou pas. Le dialogue a pour objectif surtout la tenue des élections. La CENI est à l'impossibilité d'organiser les élections dans le délai constitutionnel. Donc il faudra que la classe politique se mette d'accord pour se convenir. Ben, qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter les dégâts? C'est ça l'objet du dialogue. Il n'y a pas de dialogue par rapport au mandat du président de la République.
Peter Seni, je rappelle que vous êtes directeur général du Vrai Journal, partenaire à CCTV et certains autres médias quinois. Cette opération consiste à tester la performance des équipements qui devront servir à la révision de fichiers électoraux.
Bonne opération, mais qui doit se faire dans le respect des normes. Nous ne pouvons pas, dans un État qui se veut un État de droit, marcher sur les principes fondamentaux.
Qu'est-ce que vous appelez respect des normes ?
Respect des normes, c'est le respect de la Constitution. Peut-être que beaucoup ne le savent pas. Lorsqu'on ouvre cette Constitution, la première page explique...
Les liens entre le respect de la Constitution et les tests des matériels.
Ça veut dire qu'on va faire le travail de ce matériel, mais il faudrait que ce travail qu'on a commencé puisse se faire de manière à respecter un deadline, comme on appelle en journalisme. Beaucoup vont ici parler d'un certain nombre de choses dont nous allons évoquer d'ailleurs ici, mais tout en respectant le principe. Lorsque vous prenez la Constitution dans son exposé des motifs, tout a déjà été défini. Vous devez savoir que nous sommes partis de beaucoup de turbulences jusqu'à arriver à cette Constitution. Donc, si par extraordinaire ou par, erreur tragique, on arrive à vouloir fouler au pied le délai constitutionnel, et j'estime à mon sens que nous allons retomber dans une situation qui se révélera un engrenage pour beaucoup.
Gaston Moussid, directeur général de la radio-télévision Manica émettant des Colosses dans la province de Lualaba. Et avec ces tests, peut-on parler de la relance du processus électoral? Vous avez suivi M. Diana qui dit que c'est une preuve que les élections seront organisées. Et Tiani Peter qui, lui, pense que les tests doivent être faits dans l'essence, n'est-ce pas, d'organiser les élections dans les délais constitutionnels.
En fait, c'était une bonne chose que la CENI commence à passer ces tests, mais la CENI devrait aussi donner un calendrier. Parce qu'on peut faire ces tests-là éternellement sans que ces élections aient lieu. Et dans ce pays où la CENI a pris l'habitude d'annoncer même des calendriers et puis après d'annuler ces élections, la population souhaitait que ces tests puissent avoir un calendrier et puis ça soit suivi des faits. Mais Guy Maté, si tu permets, je m'empresse de préciser que au Lualaba, l'actualité reste dominée par la vente des actions de Freeport McMoRan au groupe chinois Moli, comme l'a dit tout à l'heure les confrères Alain Irung et les Lualabais, parce que TFM se trouve au Lualaba, se pose pas mal de questions. TFM, qui est une entreprise américaine avec une législation américaine, une société cotée en bourse qui respecte un tout petit peu l'environnement, les développements communautaires et sociaux, mais va vendre ces actions aux Chinois. Les Chinois qui sont réputés ne pas respecter la réglementation en matière de l'environnement, la réglementation en matière d'emploi, la réglementation en matière de développement communautaire, les gens là-bas commencent à se poser des questions. Parce que nous avons à côté Sicomin qui exploite les cuivres et les cobalt pour l'intérêt des 5 chantiers, mais Sicomin n'est vraiment pas intéressé par d'abord l'emploi. Sur les 900 employés, il y en a plus de 700 qui sont chinois, seulement 200 congolais. Le ministre des portefeuilles a inauguré la première cathode et on lui a dit ça, mais jusque-là, rien ne change.
Peter et Tiani, l'autre actualité, c'est la situation sécuritaire à Beni, où en une semaine, plus de 30 personnes ont été assassinées.
Je suis extrêmement sidéré et très touché par le comportement, criminel de ceux qui doivent arriver à pacifier le pays. Je me pose la question de savoir quand nous sommes en train de fêter ici à Kinshasa, quand nous sommes en train d'organiser des cérémonies où nous décorons des héros ici. Ceux qui sont à Beni, quand ils voient ça à la télévision, ils se posent la question de savoir s'ils sont au Congo ou à l'étranger. On nous a dit ici qu'on ne pouvait pas organiser les élections parce qu'il y avait un problème de moyens. Il fallait financer la guerre. Et cette guerre qui a commencé, qui jusqu'au pas plus tard qu'il y a quelques jours, on continue à assister à des massacres à Beni. On se pose la question, où est l'État? Qu'a-t-il fait alors? Pendant que les gens meurent à Beni, d'autres se complaisent à faire des éloges. Alors on se pose la question de savoir, mais le gouvernement, le régime, ceux qui ont eu mandat de la population, ils sont là pour protéger la population ou pour regarder la population mourir? Quand à l'étranger, on voit qu'il y a 3, 4, 5 Français qui meurent, tout le monde dit « je suis Charlie ». Mais au Congo, les gens meurent tous les jours. Mais quand est-ce que les gens diront que je suis béni? Quand est-ce que le gouvernement se rendra compte que c'est ses frères et sœurs qui tombent tous les jours? C'est vraiment dramatique.
Merci Joachim Diana. massacres et assassinats récurrents à Benyonor-Kivu. Pourquoi on n'arrive toujours pas à mettre fin à cette situation?
Bon, ce n'est pas parce qu'il y a des États pour protéger qu'il n'y a pas guerre. Il y a la guerre. La guerre, c'est une distorsion. On en trouve dans beaucoup de pays sont passés par là. La France est passée par là. Les États-Unis sont passés par là. Et la guerre de sécession et tout ça.
Mais on dit que la comparaison n'est pas nécessairement raison.
La comparaison n'est pas raison. Pourquoi? Parce que en fait, nous avons les États sur modèle des autres. La démocratie, on voudrait comparer. Ah, en France, il y a ceci, il y a cela. Mais là, on ne peut pas comparer. La guerre, ce n'est pas un État. Vous avez suivi l'État.
Voilà, c'est une situation qui a vécu. Mais pourquoi on n'arrive pas à
on l'a vu. Vous avez suivi très bien le confrère. Alain a bien lu, dit les tueurs profitent du temps où il n'y a ni MONUSCO ni FARDC pour tuer. On en a dit. Donc, ce sont des gens qui se cachent en brousse, qui sortent dans un village, tuent et disparaissent. Ce qu'il faut maintenant pour dire qu'il y a un État, parce que l'État protège, qu'on mette un Congolais derrière chaque habitants du Nord Kivu.
Ce qui est impossible.
Ce qui est impossible. Merci. Donc, pour vous dire qu'il ne faut pas, faire de l'enfantillage, il faut parler de questions aussi sérieuses comme celle-là.
Gaston Mouchid, la solution, c'est quoi par rapport à cette situation de Beni, les massacres qui sont devenus récurrents?
C'est triste. C'est triste que tous les jours, si vous voyez les bilans, aujourd'hui on est à plus de 5 millions de morts, on parle même de 6 millions de tués à l'est de la République démocratique du Congo. Je crois que la priorité du gouvernement devait être de ces côtés-là. Il est impératif de sauver cette partie de la République, parce que tous les jours, des tueries, tous les jours, c'est des gens qui meurent. Nous avons l'armée, nous avons la MONUSCO de ce côté-là, mais moi, on se demande qu'est-ce qu'ils font, quel est leur objectif, pourquoi ils sont à l'est. Est-ce que c'est le décès, mourir ou enterrer davantage ceux qui meurent? C'est une partie de la République démocratique du Congo. Je crois que les gouvernements ne devaient pas dormir si on n'a pas encore résolvé ces problèmes-là. Il est impératif de trouver des solutions adéquates pour finalement mettre fin à cette guerre. Sinon, je me dis, ou on laisse tomber ou on a des priorités ailleurs.
Merci, notre premier thème de ce soir. Pour éviter un vide institutionnel et préserver la continuité de l'État, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. C'est ce qu'indique la Cour constitutionnelle dans son arrêt rendu mercredi dernier. La Cour constitutionnelle confirme le maintien en fonction de l'actuel chef de l'État jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Dans un arrêt rendu mercredi dernier, la Cour a déclaré que pour consacrer les principes de la continuité de l'État affirmés par l'article 69 de la Constitution, l'article 70 lui permet de rester en fonction. Les hauts juges ont ainsi répondu à la requête des députés nationaux de la majorité parlementaire, introduite le 18 avril dernier en interprétation de quelques articles de la Constitution, notamment l'article 70, alinéa 2. Selon nos juges, l'arrêt rendu n'a pas totalement satisfait les désirs des requérants. On écoute le premier président de la Cour constitutionnelle au micro de Jeff Ngoy.
La Cour, siégeant en matière d'interprétation de la Constitution, après avoir entendu M. le procureur général en son avis, se déclare compétente, reçoit la requête, dit que pour consacrer le principe de la continuité de l'État, affirmé par l'article 69 de la Constitution, l'article 70 alinéa 2 de la Constitution permet au président de la République actuellement en exercice de rester en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Dit en outre que, bien que d'une durée de 5 ans renouvelable, le mandat des députés nationaux, sénateurs et députés provinciaux ne prend fin qu'à l'installation d'une nouvelle Assemblée nationale, d'un nouveau Sénat ou d'une nouvelle Assemblée provinciale en vertu du même principe de continuité de l'État, également traduit par les alinéas 2 des articles 103 et 105, ainsi que l'alinéa 6 de l'article 197 de la Constitution. Dit par ailleurs que les articles 75 et 76 de la Constitution règlent le cas de vacance de la présidence de la République intervenant en cours de mandat, pour cause de décès, de démission ou pour toute autre cause d'empêchement définitif du président de la République. Dit que la vacance de la présidence de la République nécessite l'intervention de la Cour constitutionnelle qui en fait la déclaration sur saisine du gouvernement.
Joachim Diana Gikoupa, comment vous analysez cet arrêt de la Cour constitutionnelle?
Je commencerai par apporter une précision détail. Dans beaucoup de commentaires, même dans certaines réactions, notamment de l'opposition, on a entendu dire que la Cour constitutionnelle autorise le président de la République à rester. Non! La Cour constitutionnelle a interprété l'alinéa 2 de l'article 70, autour duquel il y avait une controverse. Il y en a qui disaient qu'il lui donnait un sens, il y a un autre sens. Et la Constitution elle-même a dit, dans le cas où les gens ne se mettent pas d'accord sur un article de la Constitution, le juge et l'arbitre, c'est la Cour constitutionnelle. C'est pourquoi on l'a sollicité. Et la Cour constitutionnelle a donné la vraie interprétation, donc le vrai sens de cet article. D'ailleurs, ça part de l'article 69, l'article 70, et ça va plus au-delà.
Et à votre avis, c'est quoi le vrai sens de la Constitution?
Le vrai sens, c'est que cette Constitution ne prévoit nulle part où il y a un vide. C'est pourquoi on prévoit à la fin de ce que le président de la République reste en France. Dans toutes les constitutions, j'ai lu aujourd'hui tous les recueils des constitutions du Congo, la constitution de Luabourg prévoyait même que le mandat se termine aujourd'hui, mais 3 mois après, on devrait garder. Aux États-Unis, on garde même jusqu'au 20, on élit le président terminé, il y a au 20, il y a des dispositions pour qu'il entre en fonction. Et chez nous, on confond le délai d'entrée en fonction du président de la République avec le deuxième alinéa. Le délai, là, c'est dans l'article 74. Cet article 74 dit que le président de la République élu entre en fonction dans les 10 jours suivant la prestation de serment. Ça n'a rien à voir avec cet autre article qui dit...
Suivant la proclamation des résultats définitifs.
Oui, justement. On proclame les résultats définitifs et la Cour constitutionnelle constate les résultats, il y a les résultats définitifs. Et puis maintenant, le président de la République prête serment. Et quand il prête serment, il entre en fonction 10 jours après. C'est prévu. Mais l'autre délai-là qui est dans le deuxième alinéa n'a rien à voir avec ce délai-là. Donc là, c'est dans le cas où les élections n'ont pas lieu. Jusqu'à ce qu'il y aura les élections, il reste en fonction. C'est ce que ça voulait dire, tout ça.
Peter Tiani, vous avez suivi M. Diana Gikoupa qui affirme que l'arrêt de la Cour constitutionnelle donne le vrai sens, n'est-ce pas, à la disposition 110 de la Constitution. Mais il y a des experts qui estiment que cet arrêt a été formulé dans le même sens que l'article 110, qui a pas de différence entre cet arrêt et l'article 70. Est-ce que vous pensez comme Diana que cet arrêt donne le vrai sens de l'article 70?
Je ne peux déjà pas penser comme Diana parce que beaucoup de Congolais qui viennent entendre ça risquent de tomber sur les pommes. Heureusement que je suis là pour essayer un peu de pouvoir recadrer certaines choses. Je suis quand même un peu sidéré de l'interprétation qu'on peut faire. Les gens ne doivent pas oublier...
Parce que l'arrêt utilise le terme « installation ». Et l'article 110 utilise le même terme « installation ».
Je vais y arriver,
et
on
dit qu'il n'y a pas de différence entre l'article 110 et l'arrêt tel qu'elle a été formulée.
Je vais y arriver, Guy. La Constitution est un tout. Ça veut dire, l'article 70 dit que le chef de l'État reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. L'argumentaire que je viens d'entendre ici,
de la part de Diana,
on a l'impression que le chef de l'État reste jusqu'à l'installation du président à élire. C'est déjà faux. Premier aspect. Deuxième aspect. Le mandat du chef de l'État est de 5 ans une fois renouvelable. C'est clair. Ça veut dire qu'il n'y a aucune institution, il n'y a pas d'instance qui peut prolonger le mandat du chef de l'État. Seule la population congolaise, c'est elle qui donne le mandat au chef, c'est elle qui dicte ce qui va arriver. L'élection est convoquée dans l'article 73 de la Constitution, 90 jours avant la fin du mandat. Tout ça, c'est dans la Constitution. Ces articles sont liés.
Alors, si tout est clair, d'où vient ce débat au sujet de l'article
je vais prendre ici la réflexion du professeur Mbata, constitutionnaliste, que je cite ici, qui a parlé du triangle de glissement. Vous avez la Cour constitutionnelle, l'Assemblée nationale et la CENI. Il vous souviendra que la CENI nous a dit que les élections, c'est dans 16 mois. Mais après l'audit de l'OIF, on nous dit qu'on peut faire ce toilettage dans 4 mois. Vous savez qu'il y a un document d'appel d'offres de la CENI où on parle de 2 mois pour cette histoire d'audit. Vous comprenez qu'il y a des gens qui avait déjà une option préalable. Aujourd'hui, le dialogue est vidé de tout son sens parce qu'il fallait parler du processus électoral. Mais ce qui est pire, c'est quoi? Ce qui est pire, c'est que tout le monde sait, tout le monde disait hier qu'il y a des intentions. Il y avait d'abord des intentions de pouvoir rester au pouvoir. Mais aujourd'hui, avec l'arrêt de la Cour, ça saute aux yeux de tout le monde que c'est clair que les gens veulent rester au pouvoir. Mais dites-nous maintenant, vous allez organiser les élections pendant combien de temps? Si ces élections doivent faire 5 ans, parce qu'il y a d'autres experts qui viennent récemment de dire que au lieu de 18 mois, nous allons aller à 22 mois. D'autres viendront nous dire que nous allons aller à 30 mois. Donc,
alors, on peut dire que cet arrêt n'a pas suffi, n'est-ce pas, à faire dissiper les malentendus autour
de cet article 110. Non, il faudrait savoir, ne pas se leurrer, l'arrêt a jeté encore de l'huile au feu. Et là, c'est l'article 5 qui entre en considération, parce que c'est la population congolaise qui est souveraine. J'ai beaucoup apprécié l'honorable Chadari qui a dit lui-même que ils ont jubilé en disant que le peuple est content. Comme le peuple est content, le peuple va exprimer son euphorie, on l'espère bien, comme il est dit dans la Constitution, parce que c'est lui qui est souverain. Il n'y a pas d'instance qui peut prolonger un mandat de 5 ans à 10 ans, de 10 ans à 15 ans. Le seul que nous sachons dans la Constitution, le mandat du chef de l'État, il est de 5 ans, une fois renouvelable. Point barre.
Monsieur. Merci Peter Siani. Gaston Mouchid, est-ce que c'est l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui semble être difficile à cerner, ou c'est plutôt la classe politique qui est en train de créer un débat autour d'une question qui semble être claire?
Je suis d'avis que chacun tire les draps de son côté. L'arrêt ne reprend que ce que dit la Constitution. Pour éviter un vide institutionnel et préserver la continuité de l'État, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. Alors, d'une part, vous avez la majorité qui est en train de jubiler parce que le chef de l'État va rester au-delà du délai constitutionnel. De l'autre, il y a l'opposition qui est en train de fustiger un coup d'État ou éventuellement une prolongation qui ne dit pas son nom. Mais moi, je pense que les opérateurs politiques de la République démocratique du Congo ne sont pas réalistes. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous sommes au mois de mai. Bientôt, là, ça sera novembre, puis décembre. On est en train de parler. Et je me rappelle la séance du lundi 26 octobre 2015, lorsque on a présenté les budgets 2016. Et près des 580 millions de dollars, soit 6,4% du budget national, c'était les montants que le gouvernement prévoyait d'allouer à l'organisation des élections. Nous sommes au mois de mai. Est-ce qu'on peut se poser la question, combien est-ce que le gouvernement a déboursé jusque-là pour que ces élections s'organisent? C'est des questions pratiques. Et aussi longtemps que cet argent ne viendrait pas à temps, c'est-à-dire qu'on ne peut rien faire. L'opposition et la majorité siègent au Parlement, à la Chambre haute, tout comme à la Chambre basse. Qu'est-ce qu'on fait pour interpeller les gouvernements de manière à accélérer le financement du processus électoral? Aujourd'hui, on se cache derrière la CENI, mais si la CENI n'a pas le moyen d'organiser ses élections, donc il n'y aura rien. Il y a les gouvernements qui sont supposés donner de moyens à la CENI pour que ces élections s'organisent. Mais si les gouvernements ne donnent pas et qu'on ne fait rien, je suis presque sûr que nous allons nous retrouver devant un fait accompli. Donc ça ne sert à rien de pleurer ou de pleurnicher. Il faut être réaliste et essayer de voir ce qu'on peut faire pour sauver la situation, si elle peut être sauvée.
Joaquim Diana, il y a des personnes qui pensent que pour des raisons, n'est-ce pas, de cohérence, la Cour devait aussi se référer à l'article 73 relatif à la convocation du corps électoral 90 jours avant les scrutins présidentiels. Et pourquoi n'est pas demandé à la CENI de se conformer, n'est-ce pas, à cet article 73? Vous avez suivi Peter Siana qui a évoqué les triangles du glissement selon le professeur André Mbata.
Je commencerai par dire le professeur André Mbata n'a jamais parlé comme scientifique. Il parle comme membre de l'UNC. Il n'a jamais parlé comme scientifique. Je regrette. Je regrette énormément.
Alors,
alors je voulais dire ceci. Il est clair que la Cour constitutionnelle interprète l'article qu'on lui a demandé. Il s'agit...
Dans son argumentaire, la Cour s'est référée à un article 69 pour lequel...
Mais justement, là, il dit que dans l'article 69, il est demandé la continuité de l'État. Le chef d'État assure la continuité de l'État. Alors, pour assurer la continuité de l'État, il ne faut pas qu'en une période du Congo, même de 2-3 mois, qu'il n'y ait pas
un président de la
République. Et pourquoi ne pas aussi dire, pour se conformer à l'article 73 de la Constitution, la CENI devait mettre tout en œuvre pour que ces élections soient organisées dans les délais?
Est-ce que cet article pose vraiment problème?
Ben oui.
L'article, tout le monde comprend. Ça ne pose pas problème. Ici, si c'est l'article, le deuxième alinéa posait problème, c'est parce que les gens n'avaient pas la même compréhension. Mais pour le moment, tout le monde a la même compréhension qu'on doit convoquer les élections dans le 90 jours avant la fin du mandat. Tout le monde comprend. Il n'y a pas de controverse. Mais qui doit convoquer? C'est là où le vrai problème. L'opposition, certains gens, pour dire que non, puisqu'on n'a pas convoqué, c'est la faute de celui qui n'a pas convoqué pour se maintenir au pouvoir. Alors qu'il est clairement dit dans la même constitution, que dans le même article qu'on évoque, on dit c'est la CENI qui convoque. Plus loin, lorsque vous allez dans le chapitre sur les institutions d'appui à la démocratie, on vous dira que la CENI est indépendante. Elle ne reçoit des injonctions de personne. De même, la Cour constitutionnelle et tout. Donc, on sort de la Constitution pour se justifier. Il y a des gens qui disent de la Constitution, il n'y aurait que l'article 73 parce qu'il fixe les délais constitutionnels. Mais le même article, plus par il vous dit qui doit convoquer. Mais vous allez dans les interprétations, la CENI ne lui a pas donné le moyen. Le confrère de l'Occitanie là qui a parlé, il a raison dans beaucoup de choses. Mais là où il n'a pas raison, c'est lorsqu'il parle des moyens. Il ne se pose pas le problème de moyens pour la CENI aujourd'hui. Il ne se pose pas le problème. Mais il se pose le moyen, il l'a dit lui-même, sur le problème de calendrier. Je l'ai plus d'une fois dit.
Le calendrier doit être consécutif, n'est-ce pas, au budget que l'on
donne à la CENI. Non.
La CENI ne veut pas élaborer un calendrier aussi longtemps qu'il n'a pas, pas les moyens qui doivent organiser ces élections.
Non, Guimaté, nous ne sommes pas la première législature. En 2006, les élections financées à 90% par la communauté internationale. D'abord sur le calendrier. Vous présentez le calendrier de telle date à telle date, je vais faire telle opération qui va coûter autant. On lui donne l'argent. Nous avons suivi ça. En 2011, c'était la même chose. D'abord le calendrier qui prévoit les étapes et les montants payés par chaque étape
au gouvernement. Nulle part. La CENI qui avait saisi la Cour constitutionnelle l'année dernière pour dire qu'elle n'a pas assez de moyens pour organiser les élections. Quand vous dites que le fonds des finances...
Non. Nous sommes en train de confondre des situations. La CENI... Écoutez, non. La CENI avait... Non, nous confondons des situations. C'est regrettable de la part d'un journaliste qui est chaque jour sur le terrain. La CENI avait saisi la Cour constitutionnelle en ce qui concerne les élections du gouverneur de nouvelles provinces. C'était cela. Mais justement, à ce moment-là, le Premier ministre avait dit que cette élection-là n'était pas prévue. Il faut s'en faire. Mais pourquoi vous pouvez confondre l'élection de gouverneur qui entre dans l'entrée de l'ancienne législature?
Peter Kenny, selon certains experts, la Cour devait aussi statuer sur les implications de son arrêt, parce qu'en fait, elle n'a pas précisé les temps durant lesquels le président sera maintenu au pouvoir, au cas où il n'y a pas élection en 2016 plutôt.
Ce qui est bien avec vous, je vous dis sincèrement, quand on est à Radio Capi, les questions sont précises. Et lorsqu'on défend l'indéfendable, les gens vont s'alambiquer un peu. Donc c'est un peu ça. En fait, les choses sont claires.
La Cour devait aussi statuer sur les implications de son arrêt.
Même pas statuer sur les implications de son arrêt. Votre question était précise. L'article 73 est clair. 90 jours avant la fin du mandat, on convoque le corps électoral. Mais j'ai entendu dire ici que le problème de moyens ne s'est jamais posé. Moi, je suis quand même sidéré d'apprendre ça d'un aîné journaliste. Mais on nous a dit ici que on avait eu un problème de moyens parce que l'argent était parti dans l'Est. Il y a même eu un calendrier de Malou Malou ici qui n'a pas été respecté pour raison de moyens. Il y a eu ici des colibés entre le rapporteur de la CENI et le ministre de l'économie qui a dit qu'il y avait 25 millions qui sortaient. L'autre a dit qu'on ne percevait pas. Souvenez-vous, je ne sais pas si le confrère aîné se rappelle encore de cette situation. Aujourd'hui, on se rend compte que la capacité de l'écoute nous permet de mieux saisir les interlocuteurs. Vous avez parlé calmement, laissez-moi le temps de faire mon argumentation. Ne vous alambiquez pas. Donc, c'est un peu ça. On nous a parlé d'un problème de moyens. On a quitté ce problème de moyens. Aujourd'hui, on nous dit que c'est un problème de délai. Les gens se sont arrangés à plomber la CENI par de moyens pour ne pas organiser les élections. Aujourd'hui, vous allez faire confiance à ces mêmes personnes pour dire que, bon, on va tirer les choses en longueur pour qu'eux organisent les élections. Quel est la crédibilité que vous donnez à ces personnes. Aujourd'hui, nous en sommes là. Pourquoi? N'y a-t-il pas de responsabilité quand il n'y a pas d'élection cette année? Parce que nous sommes en train de parler là comme si c'était normal qu'il ne devait pas y avoir élection. Il devait y avoir élection en 2006. Le gouvernement s'est arrangé que nous ayons ces élections. Il devait y avoir les élections 2011. Le gouvernement s'est arrangé pour que nous ayons ces élections. On s'est rendu compte qu'en 2006, il y avait un candidat qui avait un certain âge. Il fallait arranger cet âge. On a arrangé pour la Constitution. On s'est rendu qu'en 2011, le deux tours va poser problème. On est passé de deux tours à un tour. On se rend compte que c'est la fin du mandat. On est en 2016, il faut de réfléchir. Alors on plombe la semi. Alors aujourd'hui, on va dire qu'on va dépasser 2016 pour aller jusque quand? Donc, nous sommes dans l'inconnu, la semi. Il peut encore prendre du temps. À la dernière minute, Corneille Nangaa peut démissionner et quelqu'un d'autre vient vous dire il nous faut encore... Et c'est parti. Alors, lorsque... Je veux conclure par là. Si nous n'avons pas les élections dans le délai, nous rentrons en 2001-2002 où la situation était telle qu'il y avait un problème de légitimité. Lorsque je l'ai dit au début de cette émission que vous lisez le début de la Constitution, la crise de légitimité en 65, Mobutu fait un coup d'État contre Kessa Vubu. Aux années 90, si Mobutu avait respecté les constitutions, la Constitution, nous n'aurons pas connu dans M. Laurent-Désiré Kabila. Merci. Donc il ne faudrait pas qu'aujourd'hui, Joseph Kabila multiplie par zéro tout ce qu'il a pu faire pendant tout ce temps.
Merci. Notre deuxième thème de ce soir, troisième séance d'audition de Moïse Katumbi devant le parquet général de Lubumbashi. Pendant qu'il se dirigeait vers le palais de justice accompagné de plusieurs personnes, son véhicule a été attaqué à coups de projectiles. Un membre de sa famille a été blessé. Pendant ce temps, un dispositif sécuritaire a été placé aux alentours du palais de justice. On retrouve sur place Denise Maéo.
C'est vers midi, heure de Lubumbashi, que Moïse Katumbi est arrivé au palais de justice, accompagné des leaders des partis politiques, membres du G7 et des membres de sa famille. Mais avant de franchir les marches du parquet, le collectif de ses avocats a dénoncé le fait que le véhicule de leur client s'est vu attaqué par des projectiles alors qu'il s'approchait du périmètre du palais de justice. Maître Jacques Fécha dénonce la brutalité utilisée par certains éléments de la police vis-à-vis du cortège de leurs clients. Un membre proche de Moïse Katumbi a été blessé au visage dans ce jet de projectiles. Quant aux personnes qui accompagnaient Moïse, ils ont été interdits de traverser le périmètre sécurisé. Entre-temps, un véhicule transportant des personnes, des prévenus, qui semblait-il doivent être confrontés à Moïse Katumbi, est arrivé au palais de justice. Pour rappel, hier, un des avocats de Moïse Katumbi nous a déclaré qu'en principe, cette troisième audition devrait être consacrée à la confrontation. Depuis le palais de justice de Lubumbashi, Denise Maéo, Radio Okapi.
Gaston Mouchid, directeur général de la radio-télévision Manika, émettant des colosies dans la province de Lualaba. Troisième comparution de Moïse Katumbi au parquet général de Lubumbashi aujourd'hui, vendredi. Et comment vous avez jugé, n'est-ce pas, les deux premières phases? On apprend qu'aujourd'hui, il y a eu des incidents.
Il faut dire aussi que pour que la République se développe, je suis d'avis que la justice doit faire son travail. S'il établit qu'il y a de faits qui méritent d'être jugés, j'aimerais que ces faits-là soient jugés. Parce que vous connaissez que dans ce pays, 6 millions de personnes ont été tuées à l'est de la République démocratique du Congo, et les auteurs, on les connaît. Il y a même des gens qui ont été récompensés pour avoir tué parce qu'ils sont aujourd'hui dans les gouvernements et ils sont en train d'œuvrer sans avoir été inquiétés. Vous connaissez que dans ce pays, il y a plus de 140 millions de dollars débloqués par le Fonds de promotion de l'industrie entre 2008 et 2014 sont toujours détenus par les débiteurs. Et la majorité d'insolvables, selon Radio Okapi, sont de ministres et députés en fonction. Dans ce même pays, en avril, les révélations de Panama Papers, ces documents qui a révélé par un consortium de médias qui pointe l'implication des cabinets Mossack Fonseca dans une entreprise de blanchiment d'argent, d'évasion fiscale, certaines personnes ont été citées. Et pour toute réaction, le porte-parole du gouvernement a interdit aux médias d'en parler. Et alors, aujourd'hui, le ministre Alexis Tambwe a fait un point de presse. Il a dit que Moïse Katumbi était en train de recruter autour de 600 mercenaires étrangers. Curieusement, c'était le 6 mai qu'il a fait ce point de presse à Kinshasa. Je l'entends sur RTBF alors qu'il était à Bruxelles le 11 mai. Le même ministre, il nous dit une douzaine de mercenaires étrangers. Alors je me dis, tiens, on est parti de 600 à une douzaine. Et aujourd'hui, le procès a commencé et vous avez vu comment ça se passe. On a l'impression que la majorité au pouvoir veut rendre inéligible Katumbi. Et donc c'est un procès qui est monté de toutes pièces pour pouvoir le rendre inéligible. Parce que si nous voulons parler de justice, pourquoi n'a-t-on pas attaqué? Parce que d'autres pays ont fait écho de rapports de Panama City et Papers. Pourquoi est-ce que le ministre et les députés qui y ont bouffé l'argent de fonds de la promotion pour l'industrie n'ont pas été inquiétés? Pourquoi est-ce que tous ces gens qui ont détourné l'argent, on a parlé ici de fibre optique, tous ceux qui ont détourné l'argent, ils ne sont pas inquiétés? Pourquoi est-ce que les gens qui ont tué à l'Est, qui ont participé, parce qu'on connaît beaucoup de gens qui ont été dans la guerre de l'Est, aujourd'hui qui ont des postes de commandement, pourquoi ils ne sont pas attaqués? C'est des vrais mercenaires.
Merci.
C'est eux qui ont tué, parce qu'on en a de preuves. Aujourd'hui,
merci.
On parle de Béni qui est ensanglanté. Pourquoi on ne les inquiète pas? Au contraire, tous ces gens-là,
merci,
quand
merci.
Ils sont à Kinshasa, c'est une réconciliation. Ils sont primés pour avoir tué et ils ont des fonctions. Ils sont dans l'armée,
merci,
ils sont des
leader.
Hauts fonctionnaires de l'État. Et ça, c'est vraiment dommage.
Joachim Diana Gikoupa, éditeur du journal La Colombe qui paraît ici à Kinshasa, comment vous appréciez les déroulements de ces différentes audiences, hein? Nous voyons M. Moïse Katumbi qui se rend au parquet sans problème accompagné de ses partisans. Mais comment vous expliquez cette brutalité de la police?
Bon, je commencerai par dire ceci, que en ce qui concerne le rapport de l'histoire de ce pays, j'ai le rapport. Je savais qu'on ferait tel commentaire, je l'amènerai. Il n'y a qu'un seul ministre, un seul parent d'un ministre.
Après, qui, je reviens sur ce que Gaston a dit. Il a parlé des radios papilles et il s'agissait plutôt d'un rapport parlementaire.
Ce rapport parlementaire, là, je l'ai. Il n'y a qu'un seul ministre. Il y a un parent d'un ministre qui a déjà réalisé à 90%. En quelque sorte, on l'a félicité.
Alors,
le reste, ce sont des Congolais qu'on ne connaît pas, des hommes
par rapport à l'affaire Moïse Katumbi.
Bon. Alors,
comment peut-on expliquer cette brutalité, n'est-ce
non,
pas?
Non, il faut, préciser certaines choses pour comprendre.
Pour quelqu'un qui s'amène calmement, qui
oui,
vient répondre aux invitations de la Cour, il vient...
Guy Maté, laissez-moi faire. Moi, j'aime être dans un environnement pour répondre. C'est pourquoi je préfère... Quand le confrère a parlé, on laisse et on passe comme ça, les gens croient que ce sont des vérités. En ce qui concerne le Panama Papers, le ministre de la Communication n'avait pas interdit aux journalistes. J'étais dans le point de presse. Il avait dit, il avait rappelé les journalistes à leur responsabilité. Si vous publiez, vous devez avoir de preuves. Sinon, tous ces gens-là vous portent. Et parmi ces gens, il y avait Moïse Katumbi. Pourquoi on n'avait pas utilisé ce rapport-là?
N'est-ce pas une façon de dire à la presse de ne pas publier, de ne pas évoquer?
Mais non, mais c'est ça la responsabilité.
Revenons à Moïse Katumbi.
Quand vous en publiez, vous devez avoir de preuves.
Revenons à Moïse
Katumbi. Et Katumbi était parmi ces gens-là. Pourquoi on n'avait pas utilisé ça pour le noyer à ce moment-là? Si c'est pour... Monsieur, en ce qui concerne Katumbi, nous voyons Sarkozy à interpeller, à les répondre, ancien président candidat. Il ne va pas avec tous les partis républicains français pour aller répondre à une décision de justice.
Et donc, ce qui gêne la police, c'est le fait qu'il est accompagné de ses partisans.
Guy Matteo, ou vous me laissez répondre, ou je laisse tomber.
Répondez, M. Diana.
Alors, c'est pourquoi je dis, on ne va jamais en justice avec le maître des gens pour répondre. La preuve, voilà. Maintenant, si les anti-Katumbi, comme des projectiles, je me demande si c'est la police qui a jeté les projectiles. Cette violence, est-ce que vous voyez la police...
Les témoins parlent de la police.
C'est la police qui a jeté les projectiles. Ça, je ne croirais pas. Je ne croirais pas.
En fait, les avocats ont dénoncé la brutalité de la police.
Même si on veut diaboliser, je ne suis pas naïf, moi, pour dire qu'une police qui se crie, qui prend des pieds et jette sur le cortège de Katumbi. Bon, mais ce que je dis, c'est que le procès Katumbi, c'est un procès comme tous les autres. Si Katumbi est innocent, on va déclarer un non-lieu. S'il est responsable, on va le punir. C'est la moindre chose. Donc, on ne doit pas d'avance dire qu'il a raison. On ne doit pas d'avance dire qu'il est coupable. Donc, on doit laisser la justice faire son travail jusqu'au bout. On trouve que les indices mis contre lui. Si le ministre constate que d'abord, les éléments reçus, c'était 60. Et on analyse, on trouve que non. Tout ce que nous avons amené, il n'y en a que 12.
Mais c'est une honnêteté qu'il faut reconnaître chez lui, ça n'est pas condamné. Mais c'est mon constat qu'il n'y a personne. Mais on doit le féliciter pour
merci
ça.
Merci Joachim Diana. Pitya Tsiani, directeur général du Vrai Journal, partenaire à CCTV et certains autres médias quinois. Comment vous appréciez, n'est-ce pas, les déroulements de ces différentes audiences à Lubumbashi?
Curieuse conception de l'honnêteté. Très curieuse conception de l'honnêteté. On va dire à la télévision, tambour battant avec la presse nationale et internationale, qu'il y a 600 mercenaires américains. On en a parlé la semaine passée, j'ai dit les services de sécurité congolais étaient où? Après, on va parler de 12. Pendant que l'ambassade avait déjà dit que ce sont des fausses allégations à l'ambassade américaine. Quelle crédibilité accordée! La fraude corrompt tout. Mais ça, c'est grave. Ça veut dire qu'on sent qu'il y a un acharnement. Un acharnement pour arriver à un objectif.
Et c'est quoi l'objectif?
Il faudrait disqualifier Moïse Katumbi. Selon les informations de notre possession, on tenterait même de le transférer à Kinshasa.
Et donc les accusations ne sont que des simples prétextes.
Nous sommes dans un environnement où la manière dont on nous a présenté Moïse Katumbi avec cette histoire de mercenaires, Moïse Katumbi était déjà un coupable. Mais aujourd'hui, avec l'évolution du dossier, avec les réactions des uns et des autres, on se rend compte que, mais il n'y en avait pas 600, mais maintenant c'est 12. Demain, ça sera 4, et puis il y en aura 15, c'est le garde du corps. Mais franchement, mon Dieu, quelle crédibilité déjà par rapport à ça. Et ça, c'est de l'honnêteté. Je me pose la question si la définition de l'honnêteté a changé. Mais par rapport à ça, il faudrait dire qu'il faudrait éviter cette situation où quand quelqu'un est candidat président, quand on parle du fauteuil présidentiel, et c'est de l'agitation totale. Comme si le fauteuil présidentiel était une propriété privée. Tout le monde a le droit d'être candidat s'il répond aux conditions. Donc c'est pas quand quelqu'un est candidat et il est potentiellement peut-être gagnant, il devient un homme à battre. C'est pas bon.
Et comment vous entrevoyez la suite de cette affaire? Ça pourrait aboutir à quoi?
Et ça va aboutir à deux schémas. Le premier schéma, c'est qu'il y ait une logique de pouvoir disqualifier Moïse Katumbi. Alors dans ce cas-là, vous savez que nous sommes dans un pays où, je ne vais pas aller trop loin, hein, où vous allez trouver quelqu'un mort, on met des préservatifs à côté pour dire qu'il était, la personne était en train de faire quelque chose avec n'importe qui, souvenez-vous de Chebeya. S'il y a une politique à vouloir sacrifier la personne, à disqualifier la personne, ce sera justement peut-être une condamnation, mais peut-être par sursis, hein, où on ne vous met pas en prison, mais bon, question de tâcher votre casier judiciaire. Ou si seulement il y a la pression qui continue et il y a certaines personnes qui arrivent à raisonner que ça risquerait de créer une situation qui risquerait encore d'emporter. Alors là, on peut se raviser, mettre de l'eau dans son vin et qu'il y ait un non-lieu, chose que j'estime à ce stade qui est encore assez utopique parce que la détermination dont on voit, on veut en finir avec Moïse Katumbi, c'est pas bon de disqualifier les candidats, c'est pas bon. Nous sommes dans un environnement, le Congo appartient à tout le monde. Si Joachim Diana veut être candidat, il devient candidat. Le fauteuil présidentiel, c'est pas un bien privé.
Merci, Peter Tony. Voilà. Gaston Mouchid, ça pourrait aboutir à quoi cette affaire? Est-ce qu'un non-lieu pourrait être envisageable?
C'est possible. Avec la pression populaire, parce que de l'avis de ceux qui ont fomenté, parce que je parle de fomentage, un ministre de la justice ne peut pas se permettre de passer à la télévision et d'appeler toute la presse pour parler des 600 et puis trois jours plus tard parler des 10 dizaines. C'est-à-dire douzaine, j'ai l'impression que lui-même, il a parlé sans avoir eu de preuves. Ce qui est dangereux pour un ministre de la Justice, aujourd'hui, avec la pression populaire, on se rend compte que, comme l'a dit tout à l'heure Peter, ce n'est pas ce qu'on a voulu. On a pensé qu'on pouvait l'arrêter comme on l'a fait avec Vano, comme on l'a fait avec Muyambo, mais on sent qu'il y a une pression populaire, il y a une pression internationale.
Merci.
Et c'est le montage risque de ne pas...
Merci, nous sommes à la fin de l'émission, Joachim Diana, la conclusion.
Ah bon, la conclusion c'est que les Congolais d'abord, si nous voulons qu'il y ait un vrai problème à partir de nous, journalistes, si les journalistes sont passionnés, les journalistes tiennent un discours plus politique, c'est regrettable, il n'y aura jamais de démocratie dans ce pays.
Merci, c'est la fin de cette émission, merci à Aïssette Diakala qui était à la technique et Alain Hirung qui a coordonné et réalisé cette émission sous la supervision de Martin Sobujangwe. À la présentation, Guy Massé, merci et bon week-end sur Radio Kaki.